Vous en avez marre de cette crise ? Jeûnez. Vous avez du mal avec ces circonstances pénibles, avec ces restrictions. Vous avez l'impression d'être à bout. Jeûnez. Bonjour à tous. Je vous ai donné la fin et la conclusion de la prédication. Donc. Mais pour ceux qui veulent rester, je vous propose maintenant de voir tout ce qu'il y a avant. Et notamment donc ce thème du jeûne, un thème choisi par Jésus. Je ne l'aurais pas choisi spontanément, mais c'est l'avantage de prêcher sur des sections de l'Écriture, c'est que c'est la parole de Dieu elle-même qui choisit les thèmes. Et nous continuons notre série sur le sermon sur la montagne, Matthieu, les chapitres 5 à 7. Jésus s'adresse aux disciples, c'est-à-dire qu'il s'adresse à ceux qui sont au bénéfice de sa grâce, au bénéfice de sa mort, de sa vie, de sa mort, de sa résurrection, ceux qui ont accepté que Dieu œuvre en eux pour changer de vie. Et Jésus revient sur les trois piliers de la pratique religieuse juive, l'aumône, la prière plus longuement, et maintenant le jeûne. Et je propose que nous lisions ensemble le texte, Matthieu chapitre 6, les versets 16 à 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites. Ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Pour comprendre ce texte, je propose déjà de poser le cadre. Il arrive que certains d'entre nous, en tout cas, nous lisions l'Écriture de manière étrange. Jésus dit « Quand tu fais l'aumône ?» Ah ben là, ça veut dire qu'on est appelé à faire l'aumône et voilà comment on va faire. « Quand tu pries ?» Alors Jésus nous dit que nous devons prier, voilà comment nous prions. « Quand tu jeûnes ?» Ah, nous voyons que Jésus ne donne aucun ordre de jeûner et que si par hasard on veut jeûner, on va faire telle ou telle chose. Non, non. Si on veut être cohérent avec ces textes, on doit reconnaître trois choses. Jésus parle du jeûne dans un enseignement qui décrit la vie du disciple, du chrétien. Donc nécessairement, nous sommes concernés. Deuxième chose, il ne donne pas beaucoup de détails. Et troisièmement, d'autres textes parlent du jeûne, et dans l'Ancien, et dans le Nouveau Testament. C'est pour ça qu'on va aussi élargir un tout petit peu pour comprendre cette pratique. Je continue toujours pour poser le cadre, pour comprendre ce texte. Dans la Bible, il y a des éléments que nous comprenons et d'autres que nous n'arrivons pas pleinement à comprendre. Et le jeûne en fait partie. Et je propose trois remarques qui vont nous aider à cerner le sujet. Et la première remarque, c'est que Dieu fait de nous des partenaires alors qu'il pourrait se passer de nous. Et dans cette remarque, je donne trois exemples. L'exemple 1, c'est l'évangélisation, le témoignage de l'évangile. Dieu pourrait se passer de nous, d'ailleurs, nous le disons, nous ne convertissons personne, heureusement. C'est le Saint-Esprit qui agit dans les cœurs. Pourtant, Dieu se sert de l'annonce de l'évangile par ses enfants pour toucher les personnes. Le deuxième exemple, toujours dans cette première remarque, c'est la prière. Dieu nous demande de prier. Il nous demande de prier, on l'a vu dans le Notre Père, pour le pain quotidien. Et alors si j'oublie, j'ai plus de pain, je ne mange pas? Bien sûr que non. Mais Dieu nous demande de prier pour qu'il puisse accomplir son plan à travers sa réponse à nos prières. Donc il nous rend participants à ce qu'il a décrété d'avance. Et le troisième exemple, ce sera le jeûne, et là je ne vais pas tout développer maintenant, mais lié à la prière. Et donc, on peut bien imaginer qu'on va retrouver ces mêmes mécanismes. Dieu accomplit sa volonté, mais il le fait en lien avec nous. Donc, première remarque, on a un Dieu qui est parfaitement souverain, il agit selon ce qu'il a décrété avant la fondation du monde, mais il le fait en lien avec notre action, nos paroles. Et comme je l'ai dit, certaines choses sont claires. Comment Dieu fait tout cela ? Moi, ça me dépasse. Mais Dieu est beaucoup plus grand que nous. Deuxième remarque, un exemple biblique. le peuple juif est menacé de génocide. Et l'oncle de la reine, un certain Mardoché, presse cette reine Esther d'intervenir auprès du roi pour empêcher le massacre. Seul problème, même en tant que reine, elle n'a pas le droit d'aller vers le roi si elle n'est pas appelée. Si elle le fait, elle peut être mise à mort. Elle hésite. Voilà la réponse de son oncle. Et nous allons lire donc en Esther chapitre 4, ça va apparaître, merci. Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Esther envoya dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. » Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Dieu va délivrer son peuple. Mais Mardoché pousse Esther à intervenir auprès du roi. Et consciente de l'enjeu immense, elle demande au peuple de prier et de jeûner. Donc oui, Dieu va délivrer. Mais Esther sait que les hommes ont un rôle à tenir. Et d'ailleurs, elle invite à prier et jeûner tout en sachant qu'elle ne va peut-être pas échapper à la mort. Le jeûne, ce n'est pas un remède magique qui garantit la réussite de toutes nos demandes. Et troisième remarque, juste pour définir ce qu'est le jeûne, basiquement, c'est une privation de nourriture, donc pas un moyen magique, mais cette privation de nourriture qui apparaît tout au long des Écritures et que nous allons examiner dans un deuxième temps. Et tout d'abord, nous allons reprendre le texte de l'évangile de Matthieu plus en détail. Et on va remettre Matthieu 6, 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Le faux jeûne. Comme il l'a fait pour la prière, comme il l'a fait pour l'aumône, Jésus dénonce une mauvaise compréhension du jeûne. Et il est très dur envers ce qu'il appelle les hypocrites, ceux qui jouent un rôle, qui se donnent en spectacle. Que font-ils? Mais ils vont tout faire pour montrer qu'ils jeûnent. Ils ne vont pas le dire, hein, ce serait de l'orgueil. Mais ils prennent un air fatigué. Ils s'arrangent pour ne pas avoir l'air en forme. L'idée de dire, mais voyez comme je suis spirituel. Je jeûne. Je suis vraiment quelqu'un de bien. J'ai une vie spirituelle intense. Une fois de plus, je jeûne. C'est pas comme si le dimanche matin, je fais tout pour avoir un visage fatigué. Il faut à tout prix que quelqu'un me dise, tu as l'air fatigué, pour que je puisse répondre, mais oui, j'ai commencé hier soir à lire ma Bible et j'ai continué jusqu'à après minuit. Bon, j'ai commencé à 23h58, j'ai fini à minuit 2, mais ça c'est autre chose. Il faut que je joue mon personnage. Il faut que je montre ma spiritualité. 4 applications à propos du faux jeûne. Premièrement, je ne jeûne pas pour les autres. Ce n'est pas un concours pour impressionner les autres, pas un moyen de montrer aux autres ma supériorité, soi-disant, spirituelle. Dans l'Église, les chrétiens sont des pécheurs graciés, tous des enfants de Dieu, tous luttant avec le péché, et qui ne gagnent pas toujours, et qui en sont attristés. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes accueillis dans sa famille, nous sommes adoptés avec tous les droits liés à cette adoption. Mais uniquement, et nous l'avons rappelé tout à l'heure dans le cadre de la présidence, grâce à l'œuvre de Christ, qui a accompli le plan d'amour du Père et qui a donné le Saint-Esprit aux siens pour leur donner la vie et les transformer. Deuxième élément, je ne jeûne pas pour moi. Je ne jeûne pas pour me prouver à moi-même, puis éventuellement à Dieu, si je pouvais en plus le convaincre, que je suis un bon chrétien. Je ne jeûne pas pour nourrir mon orgueil. Il y a quelques années, j'avais décidé de jeûner 24 heures. J'ai donc choisi mes horaires. Donc j'ai commencé juste après midi, après le repas, jusqu'au midi suivant avant le repas. Parce qu'évidemment, le but, c'est de faire le plus longtemps possible en sautant le moindre pas possible. Mais de faire longtemps, comme ça, on marque plein de points. J'ai passé l'après-midi, c'était il y a longtemps, je m'étais promené à Genève, j'avais flâné. Le lendemain, j'avais dit, il faut quand même que je prie, donc j'ai prié. C'est assez lointain. J'ai l'impression que je priais surtout pour que l'aiguille de l'horloge bouge un peu plus vite. J'attendais de pouvoir manger. Un temps de jeûne? Non, très franchement, non. C'était un temps de privation de nourriture pour mon orgueil. Je voulais faire une performance. Un temps centré sur moi. Mes réalisations. Ce n'était pas un mauvais jeûne, c'était un très mauvais jeûne. J'ai fait un acte païen. Opposé à Dieu. Opposé à l'idée de grâce, d'humilité, de dépendance de Dieu. Je ne jeûne pas pour moi. Pour les deux applications suivantes, on va relire les deux derniers versets. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Troisième application, ton Père te le rendra. Il y a là une promesse. Il n'y a pas de garantie que Dieu va nous rendre la vie facile, ni qu'il va exaucer nos prières, ni qu'il va ouvrir le ciel pour nous. Ton Père te le rendra. C'est la seule promesse. L'engagement pris par Jésus. Pas de super pouvoir, pas de circonstances miraculeusement meilleures, pas même la certitude de prendre les bonnes décisions et d'entendre la voix de Dieu. On a chanté un chant qui disait ça tout à l'heure, mais c'est en espérance seulement. Ton Père te le rendra. Voilà l'engagement de Dieu qui répond à une démarche sincère. Il répondra comme il le veut, comme il le choisit, comme il le décide. Je vais être à court de synonymes, donc je vais m'arrêter. Qu'est-ce qui se passe si je jeûne? Ton Père te le rendra. C'est un acte de foi. Et je peux, dans le cadre d'une épreuve, dire, voilà, je vais jeûner, et rechercher Dieu dans cette épreuve, et au sein de cette recherche, prier pour que Dieu me délivre de l'épreuve. C'est tout à fait légitime. Mais je peux aussi ne jeûner que parce que je veux être délivré de l'épreuve, et que ce soit le plus important que tout. Et là, je bascule dans le fait qu'au lieu de me centrer sur Dieu, je me centre sur mes circonstances. Ton Père te le rendra. Et puis, quatrième remarque sur ce texte aussi, parfume ta tête et lave ton visage. Alors, ce n'est pas la recette magique pour un jeûne. J'ai lu quelque part que des personnes pensaient qu'il fallait absolument se parfumer la tête. Plus je mets de parfum, plus ça marche. Non. Jésus dit, fais comme d'habitude. Tu n'as pas besoin de cacher à tout prix que tu jeûnes. Ce n'est pas la condition pour que ça réussisse. Ce n'est pas l'épreuve à passer. Si personne sait que tu jeûnes, tu auras 10 points, 10 points de plus, etc. Non. Pas besoin de mettre un parfum spécial. On arrivera au même résultat que les pharisiens. Il faut mettre une bonne dose de parfum. Comme ça, tout le monde va sentir que je jeûne. Non, ce n'est pas ça. Ce que Jésus dit, si tu jeûnes, fais comme d'habitude. Tu fais tes soins du corps habituel. Tu ne vas pas chercher aux hommes, tu ne vas pas chercher à cacher, mais tu ne vas pas chercher à montrer aux hommes que tu jeûnes. Parce que le but n'est pas là. Ton regard n'est pas fixé sur les hommes. Il est fixé sur Dieu. Ce qui est important, ton Père te le rendra. C'est dans la relation au Père que le jeûne se vit. Et pour aller plus loin, je propose de parcourir, alors forcément ce sera rapide, l'écriture, avec trois catégories. Et puis ensuite je donnerai quelques propositions d'application. Donc, on va voir donc le jeûne dans l'écriture et le premier élément, l'humiliation de l'âme. L'humiliation de l'âme. Et je propose que nous prenions trois textes. Trois textes, le premier dans Jacques. Donc je vais lire les trois textes à la suite. Et ils vont chaque fois apparaître. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Jacques, chapitre 4, versets 8 à 10. Texte suivant. Ils se rassemblèrent à Mitzpah, puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour, C'est là qu'ils dirent, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les Israélites à Mitzpa. 1 Samuel 7-6. Troisième texte. Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Première catégorie, le jeûne comme humiliation de l'âme. Je viens vers Dieu en reconnaissant ma misère, mon péché, mes fautes. Évidemment, pour cadrer cette pratique, il est important d'avoir deux choses en tête. La première, l'Ancien Testament parle de fêtes. L'Ancien Testament impose des fêtes où il faut se réjouir et manger. Je ne comprends pas pourquoi en France, l'Ancien Testament n'est pas plus populaire. Le Nouveau Testament parle de se réjouir. La joie fait partie de la vie chrétienne. Mais il y a un temps, et nous l'avons lu, pour s'humilier devant Dieu, reconnaître sa misère, confesser un péché particulier, peut-être tenace, réaliser la dureté de son cœur. Lorsque Jacques demande de s'humilier devant le Seigneur, nous voyons dans l'Ancien Testament qu'une manière, et ce n'est pas la seule, une manière est de prendre un temps de jeûne. Ma situation devant Dieu est plus importante que la nourriture. Et je veux concrétiser cette réalité spirituelle, par un temps mis à part devant Dieu où je vais jeûner et prier. Et deuxième remarque, l'enfant de Dieu est pardonné. Le jeûne ne lui accorde aucun pardon. Jésus a tout payé à la croix. Il n'y a pas quelque chose à ajouter, même pour des péchés spéciaux. Donc le jeûne peut accompagner une démarche spirituelle de repentance. Donc je m'arrête tout spécialement, je veux reconnaître un péché particulier, je désire l'abandonner, je prie Dieu pour implorer son secours. Mais ce qui est surtout important, c'est la démarche intérieure. Le jeûne est une possibilité pour accompagner cette démarche. Encore une fois, j'affirme que ma communion avec Dieu est plus importante que la nourriture. Deuxième catégorie, une recherche particulière de Dieu et de sa direction. Et là encore, nous allons lire 3 textes, et je les prendrai à la suite, et bon, là aussi s'afficher. Il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Simon, Pelléniguer, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Acte 13, les 2 premiers versets. Deuxième texte. Ils firent nommer pour eux des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Acte 14, 23. Et le troisième texte. Josaphat éprouva de la crainte et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 3. Le jeûne comme recherche particulière de Dieu, de sa direction. Peut-être c'est à l'occasion d'une décision à prendre. Peut-être d'un moment précis, on peut dire, voilà, en début d'année, au début de chaque mois. Alors ce n'est pas magique, encore une fois. Si je dis, je décide, au début de chaque mois, je prends un temps de jeûne et de prière. Si je jeûne le 2, ça ne perd pas son pouvoir, on est d'accord. On n'est pas dans la magie. On est vraiment dans cette relation avec Dieu. Comme je dis, ce n'est pas le seul moyen, mais c'est un exemple de recherche particulière de Dieu. Il y a quelques années, dans un temps en collectivité, j'avais des difficultés importantes avec une personne. Et à la fin de l'après-midi, c'était le moment de passer à table, et j'ai réalisé que mon problème était trop important. Je n'arrivais pas à pardonner, je n'arrivais pas à gérer la relation. Je me suis excusé pour le repas, j'ai passé ce temps-là à prier seul devant Dieu, et c'est un temps qui m'a particulièrement aidé, qui a permis un déclic. Et je vous cite ça non pas comme le modèle à suivre, non pas comme la recette à suivre, mais comme un exemple possible de Dieu qui accorde sa grâce dans des moments particuliers. L'accent est chaque fois mis sur Dieu qui accorde sa grâce. D'ailleurs, après ce moment, c'était mon tour de vaisselle. Alors, j'aurais pu bien sûr dire, écoutez, je suis tellement spirituel que je jeûne et je ne vais pas faire la vaisselle, donc, mais ça aurait été encore un mauvais prétexte. On continue, on vit normalement. et puis on compte sur Dieu. L'idée, c'est j'ai un moment difficile et je veux me rendre disponible devant Dieu. Et pendant ce temps précis, je ne veux pas me laisser distraire, même pas par la nourriture. Peut-être je peux dire aussi, je vais gagner le temps de repas, le temps de sa préparation. C'est important, je n'ai pas le temps de prier. Bien si, peut-être que je peux prendre ce temps particulier. Parce que le plus important, c'est ce temps dans la présence de Dieu. Troisième élément, la discipline spirituelle. Deux textes ce coup-ci. Premier texte. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence. Eux pour recevoir une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, mais non pas à l'aventure. Je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Et le second texte. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès ou l'ivrognerie, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. Luc 21, 34. Le jeûne comme discipline spirituelle. Je ne veux pas me laisser endormir par les excès. Je me suis aperçu qu'en diminuant d'un tiers, peut-être même de la moitié, de nourriture à midi ou le soir, lorsqu'il y a des échéances, un enseignement à suivre ou des rencontres particulières, eh bien j'étais plus réveillé physiquement et plus réceptif spirituellement. Donc l'idée c'est, je ne cherche pas à souffrir, hein, c'est pas du masochisme, je ne cherche pas à mériter quelque chose dans la privation, je ne cherche pas à forcer la main de Dieu, surtout pas, mais je m'exerce à la maîtrise de mon corps. Je ne veux pas céder aux appétits de mon corps, quels qu'ils soient. Comme le disait le pasteur et théologien John Stott, je ne cherche pas à punir mon corps, mais à l'entraîner pour qu'il m'obéisse. Et comme l'entraînement sportif passe par certaines difficultés pour progresser et pour avoir encore plus de plaisir dans la pratique sportive, eh bien le jeûne permet de progresser pour ne pas être esclave de toutes les pulsions de son corps pour une vie meilleure. Parce que justement, je n'en suis plus esclave. Donc, dans le jeûne, j'exprime de manière tout à fait concrète que je vais bien sûr délaisser quelque chose de bon pour quelque chose de meilleur, qui est Dieu lui-même. Oui, Dieu est toujours présent à mes côtés. Mais dans cette recherche, je désire en être plus conscient. Je veux concrètement me placer dans sa dépendance. Dernière chose avant de passer aux applications. On connaît le fruit de l'esprit, mais le fruit de l'esprit, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, s'oppose aux œuvres de la chair. Donc c'est-à-dire ce qui provient de l'être humain sans Dieu, toutes les horreurs qui sont listées, la débauche, la magie, toute la recherche religieuse sans Dieu, les rivalités, la fureur contre les personnes qui peut déboucher sur des choses vraiment terribles, l'envie qui conduit au vol, mais aussi, dans la même catégorie, l'ivrognerie, excès d'alcool, et les excès de table. La première fois que j'ai entendu quelqu'un me souligner qu'il y avait les excès de table là-dedans, c'était aux alentours du 20 décembre. C'était quand même pas sympa juste avant les fêtes de Noël. Mais ça fait partie des œuvres de la chair. Alors je propose, pour terminer, 7 pistes d'application. Première piste, attention aux mauvaises conceptions. Je ne me prive pas d'une mauvaise chose. La nourriture est bonne. Non seulement Dieu l'a créée, mais il l'a créée bonne, il nous a donné le cadeau. Alors, on sait qu'en ce moment, il peut y avoir des épidémies qui changent ça, mais il a donné le cadeau du goût pour qu'on puisse profiter de la nourriture. Donc, c'est pas mauvais. La nourriture est bonne. Le fait d'apprécier un bon repas fait partie des bonnes choses que Dieu nous donne pour que nous nous en réjouissions. Mais il arrive qu'il y ait des temps particuliers où je cherche quelque chose de meilleur. Toujours dans les mauvaises conceptions, il semble que le jeûne a des vertus médicales. certains alors jeûnent pour maigrir, d'autres pour compenser des excès de table, d'autres pour des questions médicales. Alors, n'étant pas médecin, je ne me prononce pas à ce sujet. Simplement, dans le cadre chrétien, c'est pas nécessairement un mauvais jeûne, ça peut être très bon, mais ce n'est pas le jeûne biblique tel qu'on l'entend. Il y a d'autres objectifs qui peuvent être tout à fait bons, mais ce n'est pas le jeûne biblique. On recherche Dieu. Deuxième élément, les aspects médicaux. Attention aux aspects médicaux. Il y a certaines personnes, je pense aux diabétiques par exemple, qui ne peuvent pas jeûner. Et je pense que dans ce cas-là, c'est sage de ne pas le faire. Attention aux excès. Quelqu'un m'a dit une fois, oh, le jeûne idéal, semble-t-il, ce serait 40 jours. Pas trouvé grand-chose dans ce sens-là. Attention aux abus, hein, ça peut être dangereux. Nous avons besoin de manger et de boire. Je ne conseille pas de jeûner avant des journées de travail intenses, en extérieur ou même en intérieur, avant des examens, surtout si on ne se connaît pas. Alors c'est vrai qu'on a lu tout à l'heure un texte où il était demandé de jeûner 3 jours sans manger ni boire. Moi, je ne le conseille pas. Alors éventuellement, si on veut vraiment faire la même chose que dans le texte, on peut le faire si le peuple complet est menacé d'extermination, et puis plus que menacé. Il y a son extermination programmée. Donc le cas était extrême, et la mesure l'était. Moïse a passé 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Mais je ne retiens pas cet exemple parce que, si j'ai bien compris la parole de Dieu, personne d'entre nous ne doit recevoir les tables de la loi. Et je dois aussi rappeler que les eaux se sont écartées à son passage. Je déconseille fermement de tenter ce genre de choses dans le lac de Neuch. Et qu'il a prié pour les différentes plaies d'Égypte. Et que là encore, nous ne sommes pas appelés à avoir ce genre de prière. Donc, on va faire attention aux excès. Comment on va jeûner? On peut décider, voilà, je vais sauter un repas. Peut-être passer une journée sans manger. Certains plus. Plus la durée est longue, plus on fera attention à bien boire et à boire sucré aussi. Alors, bien sûr, nous avons des réserves, oui, certains plus que d'autres, mais nous avons aussi des besoins. Troisième piste d'application, attention à une fausse conception de la vie chrétienne. Quand on dit « ne me soumets pas à la tentation », nous disons à Dieu que nous ne cherchons pas l'épreuve. Donc, on ne va pas chercher à souffrir en pensant que notre souffrance va nous rendre supérieurs. De même qu'on va pas... On va faire attention au mépris. Moi, je jeûne, et pas lui. Je jeûne 2 fois par semaine. Lui, il n'a pas jeûné ces 5 dernières années. Moi, je jeûne plus longtemps. Alors, bien sûr, je sais que c'est totalement hypothétique, mais que si jamais il arrivait que nous nous comparions, eh bien, on sait que ce n'est jamais le but. Ce n'est jamais une bonne chose. La joie, les repas savoureux ont toute leur place. Les temps de jeûne aussi. Alors, j'ai noté à d'autres moments, oui, jeûner au milieu du repas, c'est dommage. Enfin, c'est pendant ce temps-là, mais... Donc, il y a des temps de joie, des temps de jeûne. Et d'ailleurs, dans l'Écriture, il y a beaucoup plus de temps de joie que de temps de jeûne. Mais le jeûne en lui-même n'a pas un pouvoir. C'est comme pour la prière n'a pas de pouvoir. Le pouvoir est en Dieu, c'est Dieu qui agit, et c'est Dieu qui va agir. Ma prière n'a pas de puissance, le jeûne n'a pas de puissance. Je m'en remets à Dieu. Tout appartient à lui. Quatrième pensée, est-ce que peut faire d'autres jeûnes que les jeûnes de nourriture? Attention, je vais me mouiller. Oui et non. Oui. Oui, se priver au hasard d'écran pour lire la Bible ou lire des livres chrétiens. Se priver d'un loisir particulier pour être disponible devant Dieu ou pour les autres. Se priver d'un achat pour donner, ça peut être à la mission, à l'église, à des personnes qui sont dans le besoin. Je dirais presque... Ça fait quand même partie de la vie chrétienne. Alors on peut aller un peu plus loin que ce qu'on fait d'habitude, oui. Malgré tout, je dirais que le jeûne a un caractère spécifique, à mon sens plus exceptionnel. Je ne me prive pas d'un superflu, même d'un superflu très utile, mais je me prive de l'indispensable. C'est pour ça que la privation de nourriture va être spécifique. Je me passe de quelque chose d'essentiel, pendant un temps limité, pour me présenter devant Dieu. Et je ne le dis pas par goût, hein. Ceux qui me connaissent savent bien que c'est pas... Enfin, je trouve difficile de prêcher sur le jeûne, c'est... Priez pour moi, c'est pas là que j'excelle. Mais je crois que c'est dans l'Écriture et que Dieu veut que ce soit là. Donc, il nous donne cela. Puis attention aussi à notre faiblesse. Paul écrit aux Corinthiens, mariés, qu'ils pouvaient se passer de relations sexuelles avec leur conjoint pour pouvoir prier. Donc, on peut le voir comme une sorte de jeûne. Mais si on regarde le contexte, en fait, il dit « je vous fais une concession ». Ce n'est pas un ordre. L'apôtre Paul, qu'on ne peut pas dire qu'il manque de spiritualité, n'encourage pas ce jeûne-là. C'est une concession. Si vous voulez vraiment, allez-y, mais attention. Attention à ces excès d'abstinence qui peuvent vous faire chuter. Donc, dans ce domaine-là, j'encourage à ne pas être plus spirituel que Dieu. Cinquième piste, le jeûne comme moyen de grâce pour s'approcher de Dieu. Ésaïe 58,4. Voici, vous jeûnez pour disputer, vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue d'en haut. Cette approche particulière de Dieu. Lorsque les pharisiens ont critiqué les disciples de Jésus qui, contrairement aux disciples de Jean-Baptiste, ne jeûnaient pas, Jésus a rappelé que les amis de l'époux ne jeûnent pas en présence de l'époux, mais qu'ils jeûneront lorsque l'époux sera enlevé. Alors oui, ce texte peut parler du temps entre la mort et la résurrection de Jésus, mais je crois avec d'autres que même si Jésus est présent avec nous, nous avons son esprit en nous, nous avons une communion réelle avec lui, mais nous ne jouissons pas encore pleinement de sa présence. La communion est tellement imparfaite. Et le jeûne peut aussi exprimer ce manque, cet accès à Dieu que nous aimerions avoir. Un temps de prière où dans notre humiliation, notre attente, nous désirons être guidés par Dieu. Et soyons clairs, hein, ce n'est pas parce que je ne jeûne pas que je suis un mauvais chrétien. Hein. Ce n'est pas parce que je jeûne que je vais forcément être quelqu'un de bien, que je vais forcément prendre une bonne décision. Si je pense que si je jeûne et que je prie, alors toutes les pensées me viennent nécessairement de Dieu, c'est un mélange de magie, c'est un mélange d'orgueil et un mépris pour la parole révélée de Dieu. Je ne vais pas penser au jeûne en termes d'efficacité. Je me répète, je rame un petit peu avec ça, mais c'est vraiment important. On a vraiment cette idée très vite religieuse qui peut revenir. On n'est pas en termes d'efficacité. Mais je constate, le jeûne est présent dans l'Écriture et c'est une bénédiction donnée pour s'approcher de Dieu. De manière particulière et en le laissant répondre comme il le voudra. Alors bien sûr, on pourra dire, mais que se passe-t-il si je ne jeûne pas ? Dieu accomplira son plan. On a vu avec le cas d'Esther. Mais nous passons à côté d'une bénédiction. Alors si je ne peux pas jeûner pour des raisons médicales, alors il est sage de ne pas jeûner. Finalement, il y a des personnes qui, à cause de la maladie, à cause de l'âge, ne peuvent pas venir à l'église et qui passent à côté d'une bénédiction. Si je ne peux pas jeûner, je passe à côté d'une bénédiction. Mais Dieu en a beaucoup d'autres en réserve. Ne soyons pas inquiets pour cela. Il connaît notre situation. Il saura prendre soin de nous. Donc, l'idée pour moi ce matin, c'est de parler de cette pratique, une possibilité qui est donnée, pas aussi fréquente que la prière, bien sûr, mais un moyen particulier pour chercher Dieu. Et j'insiste, c'est pour moi, premièrement, il faut d'abord que je me convainque, mais c'est une grâce. C'est présenté comme une grâce, comme un cadeau. On ne va pas l'aborder comme une épreuve, même si le corps va grincer, ça c'est sûr. Il va se manifester. Mais c'est une grâce. Une grâce qui coûte, mais qui est bonne. Sixième piste, préparer ce temps. Quel lieu ? Comment aménager le temps ? Quelle activité ? Peut-être, je veux dire, je vais me priver du repas de la mi-journée parce que là, il faut vraiment que je passe ce temps avec Dieu et je veux vraiment mettre ce temps à part. Et j'ai quelques sujets de prière, alors sur 30 minutes, ben, j'ai une idée de ce que je vais faire. Peut-être je peux dire je vais passer plus de temps. Peut-être quelques heures, peut-être une demi-journée, peut-être une journée. Et là, ça vaut le coup avant de dire, voilà, qu'est-ce que je vais choisir ? Peut-être un livre chrétien de qualité. Et j'ai beaucoup d'idées, hein, si jamais vous cherchez. Peut-être des passages bibliques particuliers à lire, un livre biblique à lire. Il existe aussi des questionnaires qui nous permettent de nous placer devant Dieu. Pas faire une mauvaise introspection, mais de voir les questionnaires qui nous permettent qui nous renvoient un petit peu, voilà où j'en suis avec Dieu, mais de les transformer en sujet de prière, parce qu'on s'appuie toujours sur la grâce de Dieu qui nous aime et qui désire nous transformer. Donc, on peut prendre ces moments pour vivre un temps tout particulier avec Dieu. Je mets ce temps à part. Et puis, pensez aussi à l'après. Je dirais que le sujet de prière numéro un, que l'absence de nourriture ne me rende pas de mauvaise humeur et que mon entourage ne paye pas mon jeûne. Soyons réalistes. Attention à notre faiblesse. Puis bien sûr, ben, on peut décider, je me prive du repas du matin et de midi, je vais prendre une journée, peut-être un samedi, une journée de congé, voilà. Alors bien sûr, il va être d'usage d'attendre le repas du soir. Puis des fois, ça aide on va lutter un petit peu et puis on va discipliner son corps. Puis si jamais on a un moment de faiblesse et qu'on a pris un petit encas à 5 heures, Dieu ne va pas nous envoyer sa foudre hein, dessus. Je me souviens d'avoir culpabilisé parce qu'à la sortie d'une journée de jeûne et de prière, qui à mon avis était très mal organisée, j'en parlerai le point suivant, j'étais rentré à la maison à 4h30, j'avais mangé une pomme, un truc comme ça, je me dis, oh, mais c'est plus valable. Mais qu'est-ce qui est valable? Hein, on rentre tout de suite dans des catégories et c'était tellement faux cette pensée. On n'est pas en train de faire une performance. On n'est pas dans la magie. On est dans l'idée, je prends ce temps pour m'approcher de Dieu. Septième élément, jeûne collectif. On en a dans l'Écriture. Famille, groupe de chrétiens, église. Si je regarde l'Écriture, oui, à condition que ce soit volontaire pour tous et qu'on soit au clair sur un objectif commun. Peut-être une action spéciale d'évangélisation, peut-être une crise, la recherche de la volonté de Dieu, nomination de nouveaux responsables. J'ai vécu des jeunes, c'était notamment avec d'autres pasteurs, nous savions pourquoi nous étions en train de jeûner. C'est pas un grand point fort le jeûne, mais pas de problème. J'ai aussi vécu des rencontres où on jeûnait par habitude, on ne sait plus pourquoi on jeûnait. Et là c'est long hein, quand on ne sait pas pourquoi on jeûne. Hein. Et en plus, et ça c'est véridique, hein, on se rencontrait dans un bâtiment au premier étage, hein, et au rez-de-chaussée il y avait une boulangerie. Et les odeurs de pain frais et de croissant quand on jeûne et qu'on ne sait pas pourquoi, ça c'est dur. Donc, individuel ou collectif, le jeûne est toujours volontaire, il faut qu'il y ait une saine motivation. Et la meilleure motivation, c'est Dieu lui-même. Alors, on va lier la gerbe. Dieu donne le jeûne comme moyen de grâce, non pas pour nous glorifier, non pas pour imposer notre volonté à Dieu, mais pour nous rendre disponibles devant lui. On ne parle pas de compétition entre chrétiens, on parle de temps spécial, généralement peu fréquent. Je recherche Dieu dans une occasion spéciale, des difficultés, peut-être la repentance. Simplement, je m'attends à lui. Je jeûne, Dieu répond comme il le veut. Et bien souvent, c'est un temps où Dieu va agir en moi, pas forcément autour de moi. Et donc, je reviens à ma première affirmation. Vous en avez marre de cette crise ? Jeûnez. Marre avec ces circonstances pénibles ? Vous désirez que ça s'arrête ? Jeûnez. Or, ce n'est pas le seul moyen. Mais ça peut être un temps où je m'arrête devant Dieu. Parce que c'est évidemment ni une obligation, ni la seule chose à faire, hein, je veux que ce soit clair. Mais ni une obligation en disant à Dieu, ben, je vais jeûner et tu dois arrêter cette pandémie. Ça peut faire partie des sujets de prière. Mais je peux demander à Dieu simplement d'agir, avec ou sans jeûne d'ailleurs, hein, mais je viens humblement devant lui. Je peux reconnaître ma souffrance, je peux reconnaître mes limites et dire que dans cette crise, j'ai besoin qu'il me donne sa sagesse, ses forces. J'ai besoin qu'il agisse en moi pour qu'à travers ce qui est vécu, eh bien, je puisse le glorifier. Ton Père te le rendra. Je termine par cette citation du pasteur et auteur John Piper. Il rappelle que le fait de s'humilier devant Dieu et de s'approcher humblement de lui est prévu dans l'Écriture. Il est dit, et dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament, c'est répété que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Et voilà ce qu'il dit. Dieu s'est engagé à répondre aux actes du corps, du cœur humain qui signifie l'impuissance de l'homme et l'espoir en Dieu. À maintes reprises dans l'Écriture, Dieu promet d'aider ceux qui cessent de dépendre d'eux-mêmes et qui cherchent Dieu comme leur trésor et leur secours. Lorsque Dieu voit cette confession de dépendance et cette expression de confiance, il agit, parce que la gloire de sa grâce toute suffisante est en jeu. Ton Père te le rendra. Je propose quelques instants de silence et je terminerai par la prière. Merci notre Dieu, merci notre Père pour ta présence constante. Merci pour ton œuvre en chacun de tes enfants. Et merci parce que nous n'avons rien à gagner au niveau de notre salut, rien à mériter. Merci parce que Christ a tout accompli. Merci parce qu'à n'importe quel moment, nous pouvons nous approcher de toi. Et merci aussi pour ta parole qui nous guide et qui peut guider nos pratiques spirituelles, de nous de bien comprendre cette question du jeûne, pour pouvoir être en paix lorsque nous ne le pratiquons pas, pour pouvoir être en paix lorsque nous le pratiquions, et que notre pratique soit conforme à ta parole. Amen. Il est le moment de prendre congé de vous qui nous suivez par l'intermédiaire de la vidéo. Je termine avec cette salutation trinitaire de l'apôtre Paul qui dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Je vous souhaite une excellente semaine. Que Dieu vous bénisse.